C'est un pays qui a malheureusement le privilège d'avoir un président qui s'éternise au pouvoir, puisque c'est le président le plus ancien dans toute l'Asie, donc le président Gayoom, qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Donc il contrôle le pays grâce à des réseaux familiaux, claniques, mais aussi politiques, et l'opposition a beaucoup de mal à pouvoir s'exprimer librement, même si au cours des dernières élections qui avaient eu lieu, des députés, disons, réformateurs avaient été élus. Ils ont été ensuite arrêtés pour la plupart en août dernier pour avoir manifesté dans les rues de la capitale.
Alors la campagne électorale s'achève, le gouvernement assure que le scrutin sera transparent. Pour autant, les Maldives font partie des pays les plus répressifs en matière de liberté d'expression.
C'est un pays où c'est vrai que le président, sa famille et ses proches contrôlent la plupart des médias, qui osent rarement donner la parole aux opposants et surtout qui ont une ligne très fidèle au gouvernement. Alors, un simple exemple, la télévision et la radio sont gouvernementales. Il n'y a pas ni de radio privée, ni de chaîne privée. Et la seule qui existe est basée à Londres. Elle l'émet en ondes courtes, mais elle est régulièrement brouillée sur la capitale des Maldives. Il y a des journaux, le plus connu c'est Aviru, mais il est contrôlé par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a deux autres quotidiens, l'un est contrôlé par le beau-frère du président, et le troisième est contrôlé directement par le chef de l'État, et le ministre de l'Information participe aux conférences de rédaction. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai contrôle. Par ailleurs, Internet s'est développé aux Maldives, les exilés l'ont utilisé, il y a des très bons sites d'information, mais ils sont bloqués et les internautes maldiviens n'y ont pas accès. On peut citer diviobserver.com et minivannews.com qui ne sont donc pas accessibles.
Mais il existe pourtant une presse indépendante.
Il y a des publications privées qui font de leur mieux, mais qui ont plusieurs lois couperet au-dessus de la tête. D'abord, une régulation sur la licence des publications qui est assez sévère. En 2003, le ministère de l'Information avait retiré une vingtaine de licences de publication. Il y a aussi des lois qui permettent de condamner pour avoir insulté le président, pour avoir tenté de renverser le gouvernement, pour haute trahison ou pour désordre à l'ordre public. Il faut savoir qu'il y a actuellement 4 personnes, 4 cyberdissidents, des gens qui avaient utilisé Internet pour diffuser une information démocratique, qui sont privés de leur liberté, soit en résidence surveillée à Malé, soit banni sur une île.
Fin décembre, le pouvoir a levé les charges qui pesaient sur certains opposants suite aux manifestations d'août dernier. Est-ce qu'on peut y voir malgré tout un signe d'assouplissement?
C'était plutôt une bonne nouvelle, mais je crois que c'est une décision qui a été prise un peu sous la pression de la communauté internationale. C'est vrai que l'arrestation de dizaines d'opposants, notamment de parlementaires, de gens très respectés dans l'île, avait vraiment, disons, détérioré très sérieusement l'image des Maldives. L'Union européenne s'était rendue sur place, avait protesté, il y avait toute une série de mobilisations. Donc là, c'était un peu trop pour la communauté internationale. Peut-être qu'aussi l'effet du tsunami a fait que le président a senti que c'était peut-être le moment de faire peut-être de manière artificielle une espèce d'élan pour l'unité nationale pour que même les réformateurs s'alignent derrière lui pour lutter contre les méfaits du tsunami. Quoi qu'il en soit, les 4 cyberdissidents sont toujours condamnés à de lourdes peines, privés de leur liberté. Donc on peut pas dire que ce soit une amnistie générale.
Alors le Commonwealth a envoyé une délégation d'observateurs internationaux. Selon vous, est-elle en mesure d'assurer le respect de la liberté d'expression?
Même si certains réformateurs se présentent, c'est évident qu'après tout ce qui s'est passé depuis août, il est très difficile de dire que les élections sont libres. Ces gens qui ont été détenus pendant plusieurs mois, il y a des cas de torture avérés, ils sont pas vraiment en condition pour faire une campagne électorale législative. Donc on espère que le Commonwealth regardera pas seulement ce qui se fait les jours même des élections, mais ce qui s'est passé avant. Et notamment les conditions de la liberté d'expression dans le pays.